Il est 7h.
Aucun parent ne devrait voir une vidéo des derniers moments de son enfant diffusée à grande échelle. C'est extrêmement difficile.
L'indignation de la maire de Chicago après la diffusion d'une vidéo dans laquelle un policier tire sur un garçon de 13 ans. Nouvelles images choc et nouvelles questions sur les pratiques policières aux États-Unis. Les terrasses et les musées en priorité. L'objectif d'une réouverture à la mi-mai maintenu après deux réunions hier depuis l'Élysée. La nécessité peut-être d'une troisième dose et d'un rappel annuel pour le vaccin de Pfizer. Une vaccination en tout cas qui porte ses fruits en EHPAD, 26 fois moins de décès aujourd'hui par rapport au mois de novembre dernier. Dans ce journal aussi, trois hommes issus de l'ultra-droite, les ravisseurs présumés de la petite Mia arrêtés. Des fruits français plus rares et plus chers cet été.
Quel est le niveau de perte ? En fruits, c'est aux alentours de 20 à 30%. Donc il y aura des fruits, mais il y en aura moins. Et pour certains producteurs, il n'y en aura pas du tout.
On va s'intéresser aux conséquences de l'épisode de gel de la semaine dernière. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, suivi du regard international de Vincent Hervouet.
Joe Biden sonne le repli d'Afghanistan. Les derniers GI seront partis en septembre, avec 6 mois de retard sur le planning de Donald Trump. Et après 20 ans de guerre, les talibans sont prêts à revenir au pouvoir.
L'édito sport de Virginie Fulpin, et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Souvenez-vous quand les bars étaient ouverts ? Oui, je remue le couteau dans la plaie, on disait boire un canon. Mais d'où vient cette expression ? Je vous le dis, sans modération dans un instant.
Ce sera juste avant 7h30 tout à l'heure. Merci Stéphane, très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce sont les images de la nuit. Elles nous viennent une nouvelle fois des États-Unis. Vidéo issue de la caméra piéton d'un agent qui a abattu un garçon de 13 ans.
Mais stop ! Stop right now ! Hey, stop it ! Stop it ! Shots fired, shots fired. Get an ambulance up here now.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, la maire de Chicago où les faits se sont déroulés a évoqué des images insoutenables, images qui viennent d'être dévoilées un peu plus de 2 semaines après le drame.
Oui, la police venait d'être appelée pour des coups de feu. Sur place, un agent prend alors en chasse Adam Toledo. Sur la vidéo, on entend l'officier crier « Arrête-toi, montre-moi tes mains ». Le jeune garçon se retourne, lève les bras et dans la même seconde, le policier lui tire dessus. Juste après ce drame, les autorités avaient indiqué qu'Adam Toledo avait une arme dans la main au moment du tir. Alors, quand on regarde image par image, il semble bien tenir un pistolet pendant la course-poursuite, mais s'en débarrasse quelques instants avant d'être abattu. Une arme à feu a d'ailleurs été retrouvée à 2 mètres environ du corps de l'adolescent. Et depuis 15 jours, l'émotion est très forte à Chicago. Sentiment partagé hier par la maire de la ville, Lori Lightfoot.
No parent should ever have a video.
Aucun parent ne devrait voir une vidéo des derniers moments de son enfant diffusée à grande échelle. C'est atroce, c'est extrêmement difficile.
We failed Adam.
Nous avons échoué à protéger Adam. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer avec un autre jeune dans notre ville. La maire de Chicago a également appelé au calme dans un contexte tout particulier. Dimanche, un jeune afro-américain a été tué par une policière lors d'un contrôle à Minneapolis. Et le procès de Derek Chauvin, inculpé pour le meurtre de George Floyd, touche à sa fin.
Les précisions d'Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Et dans le procès, justement, de Derek Chauvin, place lundi aux réquisitions et aux plaidoiries.
Et hier, l'accusé a refusé de témoigner, invoquant son droit au silence pour ne pas s'incriminer.
En France, le calendrier confirmé de la réouverture avec une première échéance toujours fixée à la mi-mai.
Oui, échéance déjà évoquée par Emmanuel Macron lors de l'annonce d'un nouveau confinement partiel fin mars. Et donc, cette échéance réaffirmée hier, Jean-Rémy Baudeau, lors des discussions organisée par l'exécutif.
Oui, 2 visioconférences, d'abord avec des maires, puis avec une dizaine de ministres. À chaque fois, la même idée pour Emmanuel Macron, préparer les esprits et donner des perspectives. Au maire, le président est apparu, je cite, optimiste, mais prudent. Emmanuel Macron a précisé que les hospitalisations devraient encore progresser jusqu'au 30 avril. La tension restera ainsi très forte, mais ça n'empêche pas le chef de l'État d'esquisser des dates sur les réouvertures. Au maire, le président a confirmé son objectif du 15 mai pour les terrasses et les musées. Ensuite, ça pourrait être par étapes de 3 semaines. À chaque fois, Emmanuel Macron promet des discussions locales en amont entre les préfets et les élus. Il pourrait même y avoir des ouvertures selon les territoires. Il y aura plus de co-construction, plus d'expérimentation, confirme un proche d'Emmanuel Macron. Au ministre désormais de tout mettre en musique. Voilà pour les pistes distillées par l'Élysée lors de ces réunions. Pour la parole officielle, il faudra encore attendre un peu. Là encore, Emmanuel Macron garde la main et entretient le flou. Son entourage laisse entendre qu'il s'adressera aux Français d'ici la fin du mois.
L'élément clé dans tout ce calendrier, ce sera la vaccination qui s'ouvre aujourd'hui aux plus de 60 ans sans comorbidité et qui, dès ce week-end, sera ouverte dans des créneaux réservés aux professionnels de plus de 55 ans les plus exposés, enseignants, policiers ou professionnels de la petite enfance.
Une vaccination qui s'accélère à travers toute l'Europe, on le verra tout à l'heure à 7h30 et on en parlera avec Thierry Breton à 8h15 sur Europe 1 ce matin. Ce qui n'empêche pas les incertitudes. Les formules actuelles seront-elles efficaces contre les variants ? Faudra-t-il se vacciner tous les ans, comme pour la grippe ? Le patron du laboratoire Pfizer a reconnu hier que des injections supplémentaires pourraient être nécessaires.
Je pense qu'il y aura besoin d'un rappel. Il faut encore déterminer la fréquence, cela reste à voir. Le scénario le plus probable, c'est qu'il y aurait besoin d'une troisième dose, entre 6 et 12 mois après la seconde injection. Et ensuite, il y aurait un rappel annuel. Mais tout cela doit être confirmé. Et encore une fois, les variants joueront un rôle clé.
L'incertitude donc à long terme du PDG de Pfizer, Albert Bourla. À court terme, en revanche, l'efficacité de la vaccination a été une nouvelle fois démontrée, et notamment par ces chiffres dans les EHPAD. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Plus de 9 résidents sur 10 vaccinés et une mortalité en chute libre ces dernières semaines.
Effectivement, les chiffres sont très parlants. Fin novembre, nous étions à 1300 décès dus au Covid chaque semaine dans les 7000 EHPAD de France. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à une cinquantaine de décès, 26 fois moins. Et il y a aussi 6 fois moins de cas de Covid qu'à l'automne. On compte aujourd'hui 1500 cas positifs par semaine en moyenne. Florence Arnaise-Maumet, qui préside le SINERPA, syndicat des maisons de retraite privées, y voit clairement l'impact de la vaccination. Et c'est un vrai satisfecit.
Insatisfecit au niveau du consentement à la vaccination, des opérations de vaccination, au niveau du peu d'effets secondaires. Et puis, aujourd'hui, une situation qui est de plus en plus calme. Et on est le premier îlot de France à avoir des chiffres en très net recul.
Et cela a permis de réautoriser les visites en chambre, d'assouplir un peu les protocoles d'animation. Mais pour maintenir cet équilibre fragile, les responsables d'EHPAD réclament le maintien des livraisons de vaccins, à la fois pour protéger les nouveaux arrivants et les salariés qui ne sont vaccinés qu'à 70%.
Et on va rester avec vous, Anne Le Gall, notre spécialiste santé à Europe 1, aux côtés des personnels soignants, mobilisés depuis plus d'un an, un engagement au quotidien qui pèse sur leur morale et leur santé. Mais pour les aider à faire face, un espace détente a été créé à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et vous avez pu le visiter, Anne, cet espace appelé La Bulle. Vous nous le faites découvrir ce matin.
En rez-de-jardin, à côté de la cafétéria, l'endroit n'a rien d'une salle d'hôpital. Musique douce, fauteuil massant, cocon de sieste en forme de tentiglou. Le personnel peut y venir pour évacuer la fatigue, le stress. Un psychologue et une kiné sont là pour eux. Vanessa, qui est assistante médicale, a pris rendez-vous pour soulager son dos.
Ce matin, on a eu des changements de dernière minute, donc on n'a pas eu beaucoup de pause. Et voilà, c'est du stress. Et là, de se poser et d'avoir un petit massage, c'est vrai que c'est agréable.
Confirmation d'Aurélie, la kiné, beaucoup de soignants sont tendus.
Beaucoup de contractures au niveau des trapèzes, cervicales, bas du dos, qui s'amplifient en fait avec le stress de la Covid, la manipulation aussi des gens. Donc voilà.
90 personnes passent ici chaque jour pour souffler un peu. Pour le docteur Marguerite Ducel, médecin spécialiste de la douleur qui a lancé ce lieu il y a un an, c'est la preuve de son utilité.
Il y en a certains qui nous disent « si il n'y avait pas la bulle, je crois que j'aurais accepté cet arrêt de travail que le médecin me propose ». Évidemment pas tous, mais probablement ça répond à un réel besoin.
Et autre signe qui ne trompe pas, une quinzaine d'autres hôpitaux se sont inspirés de cette bulle de détente à Grenoble, Bourges ou Angers par exemple.
Un reportage signé Anne Le Gall pour Europe 1.
7h09, la petite Mia et sa mère toujours activement recherchées. Les trois ravisseurs présumés, eux, ont été arrêtés.
Trois hommes qui ont été placés en garde à vue cette semaine, Arthur Mbaché.
Oui, un homme de 23 ans, les deux autres la soixantaine, arrêtés avec l'aide du GIGN avant-hier soir et hier matin à 400 km des Vosges, à Paris et en banlieue parisienne. D'après nos informations, les enquêteurs, lors des perquisitions, sont tombés sur des documents qui prouvent leur participation au kidnapping, des papiers, des textes, où on retrouve tous les éléments de ce scénario soigneusement préparé. Se présenter chez la grand-mère de l'enfant, se faire passer pour des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, prétexter un soi-disant rendez-vous avec les services sociaux, tout ce qui leur a permis de tromper la grand-mère, d'obtenir sa confiance et de repartir sans violence avec la petite Mia. Ces trois hommes sont connus et suivis par les services de renseignement, la DGSI, qui s'intéresse à eux parce qu'ils évoluent dans la mouvance dite de l'ultra-droite. Hier, Les enquêteurs ont aussi trouvé chez l'un d'eux de quoi fabriquer des explosifs. L'enquête se poursuit ce matin pour retrouver Mia et sa mère, suspectés donc d'avoir commandité ce kidnapping en faisant appel à ces trois hommes qui sont, eux, en garde à vue à Épinal.
Sa mère qui, d'après Vosges Matin, aurait été prise en stop par un automobiliste tout près du village où l'enfant a été enlevé. C'est l'un des effets des confinements successifs. Les signalements de violences conjugales par des voisins, notamment en hausse ces derniers mois, c'est ce qui ressort, selon les informations d'Europe 1, de la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles.
Et contre ces violences, on va s'intéresser ce matin à ce nouvel outil destiné à protéger les femmes qui se sentent menacées. Il s'agit d'un bouton d'alerte, un bouton d'alerte connecté qui commence à se déployer en France.
Oui, après Auxerre et Avignon, les tribunaux de Seine-et-Marne viennent de signer une convention avec une association d'aide aux victimes pour proposer la mise en place de ce dispositif très discret. Reportage de Marion Dubreuil pour Europe 1.
C'est un petit bouton, blanc ou noir, qui peut se clipser sur une bretelle de soutien-gorge ou se glisser dans un bijou. Il est connecté à une application sur smartphone. Il fonctionne sans réseau 4G, même avec un faible signal, nous explique sa créatrice, Dominique Brogy.
Donc là, si je fais un double clic sur mon bouton, qui marche jusqu'à 30 mètres du téléphone, les 5 personnes que j'aurai enregistrées en contact vont recevoir un coup de téléphone qui va s'afficher SOS Dominique.
C'est un appel d'urgence automatique envoyé par Brogy Dominique qui demande du secours. Retrouver par SMS et mail sa position géographique.
L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas conditionné à une procédure judiciaire. C'est ce qui a convaincu Laetitia Fernandez, directrice de l'association d'aide aux victimes La Vie Mèche 77, d'acquérir 100 exemplaires du bouton d'alerte.
Les victimes qui peuvent nous contacter, ce sont toutes personnes qui s'estiment victimes, et ce alors même qu'elles n'auraient pas encore déposé plainte ou qu'elles n'auraient pas le souhait de le faire.
Actuellement, les trois tribunaux de la Seine-et-Marne disposent de 46 téléphones grave danger. Ils voient dans le bouton d'alerte un outil complémentaire, moins cher, 50 euros contre 1000 euros, et plus souple, d'après Pauline Petit, la référente violence conjugale du parquet de Melun.
Il n'y a pas de conditions juridiques particulières à remplir. Ça sera un travail que fera la Vimège sur l'évaluation de la situation personnelle de ses victimes. Il n'y a pas de conditions juridiques, comme par exemple avec le téléphone grave danger, qui suppose un danger imminent ou une interdiction de contact avec l'auteur.
Le parquet de Melun envisage déjà de confier le premier bouton d'alerte à une victime dont le conjoint doit comparaître prochainement pour violence et qui a besoin d'être rassuré avant l'audience.
4 milliards d'euros de pertes pour le secteur agricole. 4 milliards d'euros. Autant pour l'arboriculture, le secteur viticole sont concernés. Des chiffres vertigineux après l'épisode de gel de la semaine dernière. Et ces intempéries auront aussi mécaniquement des effets sur notre consommation cet été.
Oui, faut-il craindre des pénuries de certains produits ? Élément de réponse avec Pierre Herbulot et les représentants du monde agricole.
Les cerises, les pêches, les nectarines, les abricots.
La liste
aussi
est
les
interminable.
Les noix, les noisettes, les kiwis, les fraises, les framboises, les cassis.
Celle des fruits touchés par les gelées de ces 10 derniers jours. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, prévient cet épisode climatique va devenir très concret pour le grand public sur les étals cet été.
Quel est le niveau de perte ? En fruits, c'est aux alentours de 20 à 30%. Donc il y aura des fruits, mais il y en aura moins. Et pour certains producteurs, il n'y en aura pas du tout.
Pour les fruits à noyaux, cerises, pêches, abricots, les pertes pourraient même dépasser les 60% de la production. 1300 tonnes de cultures perdues en une nuit pour Patrice Vulpian, vice-président de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Conséquence directe, les prix vont augmenter.
Dans le pire des cas, il va y avoir une augmentation de 50 centimes au kilo. Après, de toute façon, c'est le marché qui commande. L'ambiance globale sur le marché qui fera le prix. Bon, sachant, encore une fois, je le répète, qu'on ne pourra pas aller au-dessus de certains prix. On ne peut pas vendre des pêches à 10 euros le kilo. Hein.
Seule petite consolation pour les agriculteurs, la concurrence des produits étrangers, en particulier espagnols et italiens, devrait être plus faible cette année. Là-bas aussi, le gel a fait des ravages.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Vous connaissez Mathieu, Miss Marple et ce genre d'enquête un peu à papa, si on peut dire.
Vous, Marion Calais.
J'adore. Eh bien, figurez-vous que ces enquêtes feutrées, sans hémoglobine, ont le vent en poupe. En Grande-Bretagne, le Murder Club du jeudi, publié par l'éditeur d'Agatha Christie, signe la troisième meilleure vente de tous les temps, plus d'un million d'exemplaires. Une littérature policière qui connaît une forme de renouveau, Nicolas Caro.
Le cozy crime, c'est le roman noir qui ne fait pas peur. Dans le Murder Club du jeudi, par exemple, un groupe de retraités se rassemble chaque semaine pour réfléchir à des affaires non résolues et essayer d'en percer l'énigme. Un jour, le directeur de leur village de retraite est retrouvé assassiné dans la cuisine. À eux de mener l'enquête. Un vrai cozy crime, Violaine Chivot est l'éditrice du livre aux éditions du Masque.
Déjà, c'est un roman d'enquête. Il y a peu de violence, il n'y a pas de détails glauques. Et dans le cozy crime, là où les personnes qui mènent
mène l'enquête sont souvent des amateurs en fait, qui se sont trouvés là un peu par hasard ou par chance. Et puis on est souvent dans un décor bucolique, on est à la campagne, dans un cadre un peu intimiste.
Tout ça saupoudré d'humour anglais, ces temps-ci, le cozy crime est plébiscité.
En ce moment, je pense que c'est particulièrement une littérature dont on a envie et besoin. Ça permet de s'évader en toute légèreté, de fuir l'amorosité et l'angoisse ambiante.
Les éditeurs se ruent sur le phénomène. La Martinière publiera en mai une nouvelle série, Les Dames de Marlowe enquête, une dame de 77 ans, amatrice de mots fléchés qui se transforme en détective. Succès annoncé.
À savourer avec un petit thé dans un rocking chair, ce sera parfait.
Vous avez comme ça, une petite idée du week-end de Marion Calais hein, qui arrive. Merci Marion, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une rencontre à 7h40 ce matin, deux hommes, François Varou, ancien espion français, et Sergueï Girnov, ancien agent soviétique. C'est inédit, un tel échange sur leur métier, sur leur pratique. Ils publient KGB, DGSE, deux espions face à face chez Mareuil Éditions. Et c'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40, tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et première à avoir été touchée par la pandémie, la Chine est la première à rebondir. Le chiffre vient de tomber, croissance de plus de 18%, rendez-vous compte.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h17 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La Chine, sur les chapeaux de roue. La deuxième économie mondiale affiche son meilleur taux de croissance depuis 20 ans.
Et oui, voilà, le chiffre vient de tomber au premier trimestre. Une croissance de 18,3%, c'est un record. Alors bien sûr, ça se compare à un début d'année 2020 qui avait été catastrophique. Le virus avait mis l'économie chinoise à l'arrêt. Il n'empêche que la Chine, premier pays touché par la pandémie, est le premier à rebondir et de manière très puissante. Ce qui autorise d'ailleurs les autorités chinoises à prévoir sur l'année un taux de croissance d'au moins 6%. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Li Keqiang devant le Congrès du Peuple le mois dernier.
Et pourtant, à la différence par exemple des États-Unis, la Chine n'a pas fait de plan de relance massif.
Eh bien non, c'est très intéressant. La réponse chinoise était très différente de la réponse occidentale. La Chine n'a pas voulu faire de relance massive comme pendant la crise de 2008. Elle a certes soutenu les investissements d'infrastructures, elle a permis aux collectivités locales d'emprunter un peu plus, mais enfin, rien de massif. Au contraire, la stratégie a été d'éviter la course en avant de l'endettement et le pouvoir central a donné des instructions dans ce sens aux banques. Depuis 5 ans, la Chine s'efforce de stabiliser des dettes et de freiner la spéculation immobilière. Comme l'a dit d'ailleurs le président Xi Jinping, une maison, c'est fait pour habiter dedans, pas pour spéculer dessus. Et ça signifie en clair que la reprise à laquelle on assiste en Chine est plutôt solide. Elle n'est pas dopée artificiellement par des constructions de gratte-ciel, de bureaux vides, etc., comme on l'a vu dans le passé.
Une maison, c'est fait pour habiter dedans, pas pour spéculer dessus. Je la garde, celle-là. Ce qui n'empêche pas le pouvoir central d'être en alerte au moindre coup de mou de l'économie, Nicolas.
Alors oui, il y a un pilote très fin, avec une échéance impossible à rater pour eux. Le 1er juillet, ce sera le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le pouvoir fera donc tout pour que l'économie soit en bonne forme à cette date. C'est la version Xi Jinping du quoi qu'il en coûte. Ce qui tire l'économie chinoise, cela dit pour le moment, ce sont surtout les exportations. La consommation reprend moins vite, mais enfin, elle retrouve du dynamisme. D'ailleurs, les grands groupes occidentaux, du luxe à l'automobile, en sont les témoins. Sans le dynamisme du consommateur chinois, leurs résultats financiers seraient beaucoup moins bons. La reprise en Chine, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous.
Merci Nicolas Barré, 7h19 sur Europe 1. C'est l'heure du regard international avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Vincent, vous revenez ce matin sur le repli des Américains d'Afghanistan.
Joe Biden l'a confirmé solennellement, l'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Sous-entendu, elle n'a que trop duré. Il ne refera pas l'erreur de Barack Obama qui avait reculé au dernier moment. Il va boucler le repli engagé par Donald Trump, décidé à mettre fin aux guerres sans fin. Biden n'en avait pas dit un mot dans son programme, mais il ira jusqu'au bout. C'était prévu au printemps, ce sera fait à l'été. En septembre, il n'y aura plus un seul des 2500 GIs encore sur place. Et avec eux partiront les 9000 derniers soldats de l'OTAN. Si les Afghans avaient encore un doute, Anthony Blinken est allé hier à Kaboul pour tout leur expliquer. Le président avait pris l'histoire à témoin. Son ministre a pris les Afghans pour des naïfs. Il leur a promis un partenariat durable, un soutien diplomatique et humanitaire et la poursuite des efforts pour faciliter le processus de paix afghan.
Pourquoi en douter ?
Parce qu'il n'y avait plus de processus de paix afghan, il est gelé depuis des mois, l'annonce du repli américain va l'enterrer. Depuis la signature d'un accord avec les Américains il y a un an, les talibans s'abstiennent de leur tirer dessus. Ça simplifie leur repli, c'est toujours une opération compliquée, coûteuse, dangereuse. Ils l'ont vu au Vietnam, les Anglais et les Russes ont connu ça en Afghanistan. Et depuis un an donc, les talibans continuent la guerre civile. Ils s'emploient à écraser l'armée nationale afghane et ils combattent mollement aussi les djihadistes de l'État islamique et ceux d'Al-Qaïda qui rivalisent dans le terrorisme aveugle. Bref, les Américains ont renoncé à implanter la démocratie avec des drones. Ils sont fatigués de cette guerre brumeuse qui aurait coûté 1000 milliards de dollars ou peut-être le double, on n'en sait rien. Mais ils abandonnent un régime fantoche avec des tribus qui s'entretuent et une corruption à la hauteur des montagnes afghanes. D'ailleurs, le comble du cynisme, c'est quand Anthony Blinken, à l'ambassade à Kaboul, a dit hier à ses compatriotes militaires et diplomates « Ce que vous avez fait depuis 20 ans, c'est vraiment extraordinaire. »
Vous parlez de cynisme ?
Bien parce que dans 6 mois, il n'en restera rien et qu'il le sait parfaitement. Tous les Afghans le savent aussi. Et ceux qui le peuvent et qui n'ont pas envie de revivre sous la férule de la charia sont déjà en train de faire leur mal.
Vincent Hervouet, le regard international, c'est tous les matins sur Europe 1, 7h21. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Ensemble, on est plus fort. L'équipe de France olympique et paralympique est unie pour la première fois. Et mine de rien, c'est une petite révolution.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire. Stéphane Bern arrive, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, Virginie, vous voulez revenir sur l'équipe de France olympique et paralympique qui ne formera qu'une seule équipe pour Tokyo. Pour vous, les sportifs sont en train de nous montrer l'exemple d'une société unie et on ferait bien de les suivre.
Olympique et paralympique. Notre cohésion est notre force. Nous sommes une seule et même équipe. Nous sommes l'équipe de France.
Ça, c'est dans la vidéo qui est sortie mercredi, à l'occasion des J-100 avant les Jeux. Une seule équipe de France, c'est une petite révolution, mine de rien, et ça va permettre de mettre en lumière les athlètes paralympiques. Parce que soyons honnêtes, quand il y avait une équipe olympique et une paralympique, on sait vers laquelle se dirigeaient les projecteurs. Là, les sportifs ont eu cette volonté de se rassembler et on doit les suivre parce qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On ne voit plus les paralympiques comme des monstres, heureusement, mais ils sont encore largement invisibles. Regardez, tous les candidats au rôle de porte-drapeau des délégations françaises se sont fait connaître mercredi, et on a parlé que des candidats valides, comme si le message principal de l'équipe de France n'était pas passé. Et on peut tous faire notre autocritique là-dessus. Moi, la première, j'avais peut-être pas mesuré d'entrée la portée de cette équipe unie et le fait qu'il était important de souligner cette avancée majeure.
Il y a encore des progrès à faire pour rendre visibles les sports paralympiques.
Bah oui, c'est déterminant parce qu'en sport, on aime que ce qu'on voit. Forcément, on s'intéresse d'abord à ce qu'on connaît, le sport. Ce sont des performances, ce sont aussi des visages auxquels on s'attache, des histoires, des personnalités qui rendent la relation entre les sportifs et le public plus palpable. Si nous, dans les médias notamment, mais pas seulement, on ne rend pas plus visibles ces athlètes paralympiques, on n'avancera pas. Je trouve que cette équipe de France unie va nous aider à changer notre regard parce qu'elle nous force à réfléchir à ce qu'on choisit de montrer et à ce dont on veut parler. Si on joue le jeu, petit à petit, vous verrez, le handicap va s'effacer derrière le sport et les athlètes paralympiques pourront enfin être des exemple pour les plus jeunes, des sportifs auxquels on s'identifie tout simplement, comme les autres. Parce que c'est le sport qui nous réunit avant tout. Et là, en l'occurrence, les sportifs sont en avance sur la société, il faut le dire aussi quand ça arrive. Donc autant faire amende honorable et suivre la voie qu'ils tracent.
C'est 98 jours. On va pas le faire tous les jours. Hein.
199, non, on va
98 jours
de
maintenant des JO de Tokyo. Merci Virginie Fulpin. L'édito sport que vous attendez tous les matins sur Europe 1 et à retrouver sur europe1.fr. 7h26. Stéphane Bern est avec nous, c'est l'heure de notre moment d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Loin de moi l'idée de faire ici la promotion de l'alcool en général et du lever de coude en particulier, mais l'expression du jour sera « boire un canon ». Vous le savez, personnellement, je ne bois que du thé.
Alors, boire un canon, il y a le coup de canon. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que je me trompe complètement ?
C'est vrai, Mathieu, que beaucoup de linguistes, avant vous, ont pointé du doigt ces similitudes. Le coup de canon évoque aussi les chopes qui s'entrechoquent au moment de trinquer. Puis on buvait d'un trait cul sec. Au passage, notez qu'on dit cul sec parce que quand on repose le verre, il n'y a plus de liquide dedans. Le contenant se trouve donc cul sec. Mais boire un canon a en fait une toute autre origine. Au XVIe siècle, c'était une véritable unité de mesure pour le vin qui correspondait à 1/16 de pinte, soit 6 centilitres. Les verres, à l'époque, avaient cette exacte contenance alors qu'aujourd'hui, ils sont plus autour de 9 ou 20 centilitres. Au XIXe siècle, l'expression « boire un canon » s'impose. Elle signifie « boire un simple verre de vin » quand on disait « boire un canon soviétique », c'était du vin rouge, et quand on utilisait le verbe canonner, c'est qu'on enchaînait les ch'tis canons. Aujourd'hui, en Irlande, on dit boire une jatte. Aux États-Unis, c'est to knock one back, on s'en tape un. En France, on peut aussi dire s'en jeter un derrière la cravate, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, de cravate. Et chez les Roumains, c'est bea un ciocian. Pardon pour la prononciation, ça signifie boire un marteau. Ça ne doit pas être très agréable. Allez, terminons avec une jolie phrase de Daniel Pénac. Un ivrogne, ça raconte n'importe quoi, surtout la vérité.
À 16h, est-ce que ce sera la vérité? C'est historiquement vôtre, en tout cas avec Mathieu Noël.
Oui, aujourd'hui, on réunit trois dames. Louise de Savoie, l'aventurière Lady Hester Stanhope, proclamée reine de Palmyre, et Beyoncé Queen Bee. Leur point commun, trois reines sans couronne cet après-midi.
À tout à l'heure, 16h.
À tout à l'heure.
7h27, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et le froid ne nous lâche pas, il nous décourage, il faut bien le dire, parce qu'on en a un petit peu marre. Donc il fait ce matin entre moins 5 et plus 4 degrés, c'est encore le froid qui fait mal à la nature et à vos cultures, chers amis, ou même vous, chers jardiniers.
Vous avez entendu 4 milliards ? 4 milliards, le secteur viticole et arboricole. Ouais, 4 milliards de pertes à cause du gel.
C'est énorme, hein. c'est énorme. On le sait, et malheureusement, on a une situation de blocage. En météo, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on sait que quand on a une situation, elle ne bouge pas. S'il fait beau, il va faire beau pendant longtemps. S'il fait chaud, il va faire chaud. Et là, on a ce gel qui dure depuis maintenant plus de 10 jours et qui va continuer. Hein, et c'est terrible. Alors aujourd'hui, on en a encore. Demain, on en aura un petit peu moins. Dimanche, encore un petit peu moins. Et la semaine prochaine, on va quitter la période de gel. Mais on se demande déjà si elle ne va pas revenir, vous voyez. Donc on peut la quitter pendant 3-4 jours, ça lundi, mardi, mercredi prochain, il fera bon, mais on se demande si on ne va pas la récupérer après, un petit peu plus tard. Bon, allez, je vais vous dire qu'aujourd'hui c'est simple, on va le résumer en un mot, c'est comme hier. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, c'est parfait, c'est précis. 7h29.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Je m'occupe de mes enfants, j'ai pu poser les 5 jours d'affilée pour pouvoir m'occuper d'eux toute la semaine prochaine. Donc c'est vraiment une chance parce que le besoin, il est là tout de suite maintenant. Ça évite d'aller puiser dans les congés et de les garder pour cet été.
Le coup de pouce d'un patron dans le Nord, il offre une semaine de vacances dès lundi prochain à ses salariés pour les aider à garder leurs enfants. Dans ce journal, l'Union européenne qui semble rattraper son retard dans la vaccination, c'est l'effet ketchup, on vous dira pourquoi. Vous entendrez aussi le témoignage émouvant d'une mère de famille qui remercie la justice après la condamnation à perpétuité du chauffard qui a tué sa fille. Et puis c'est sans doute une Madeleine de Proust pour nombre d'entre vous. La vache qui rit fête ses 100 ans aujourd'hui.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. Les confessions et les échanges de deux espions retraités. Sergueï Girnov, ex-KGB, François Varou, ex-DGSE, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Plutôt que de commémorer les 100 000 victimes du Covid, Emmanuel Macron a préféré se projeter dans l'avenir, une façon d'enjamber un rendez-vous politique délicat.
Et puis Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk aujourd'hui, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, le monsieur vaccin de Bruxelles. Il sera à 8h15 dans ce studio. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas facile de concilier télétravail et garde des enfants en vacances à la maison. Alors dans le Nord, le chef de Sarbacane, une entreprise de marketing digital, a trouvé la solution. Offrir tout simplement une semaine de congé supplémentaire à ses salariés. Lionel Gougelot.
À l'annonce des écoles fermées et des vacances avancées de 2 semaines, Paul Defombelle, le directeur général de chez Sarbacane, a tout de suite senti un petit vent de panique chez ses 110 salariés.
En pratique, c'est simple, on a vraiment beaucoup de jeunes familles et tout le monde se posait la question en disant qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va poser une semaine de vacances maintenant parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire garder les enfants? Oui, mais c'est dommage pour cet été. Enfin, voilà, on a réglé le problème.
Régler le problème en offrant 5 jours de congés supplémentaires, de quoi permettre par exemple à Cécile Leroy, responsable RH, d'assurer la garde de ses 2 enfants de 2 et 6 ans.
Je m'occupe de mes enfants, j'ai pu poser les 5 jours d'affilée pour pouvoir m'occuper d'eux toute la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est vraiment une chance parce que le besoin il est là tout de suite maintenant. Ça évite d'aller puiser dans les congés et de les garder pour cet été. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous.
5 jours offerts en guise de gratification après une année de forte croissance pour l'entreprise, mais aussi parce qu'entre télétravail et contraintes sanitaires, beaucoup de collaborateurs avaient besoin de ce break.
On connaît tous dans nos entourages des personnes pour qui la situation commence à être longue. Et oui, il y a des lassitudes. Et on voit que même avec des très bons résultats, les équipes ont une certaine fatigue. Et que oui, il faut savoir aussi prendre soin de soi dans des périodes qui sont compliquées.
Congé payé sur le compte de l'entreprise, qui d'ailleurs, depuis le début de la crise, n'a sollicité aucune aide financière publique. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Le cap de la mi-mai, maintenu par Emmanuel Macron, le chef de l'État envisage toujours une réouverture des terrasses, des bars et restaurants, ainsi que des musées.
vaccinés à cette date.
Près de 12 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid et un peu plus de 4 millions ont reçu les deux.
Et dès aujourd'hui, les plus de 60 ans peuvent se faire vacciner avec Pfizer et Moderna. À partir de demain, des créneaux de vaccination seront dédiés aux enseignants, aux professionnels de la petite enfance, aux policiers et aux gendarmes de plus de 55 ans.
Au niveau européen, les 27 sont-ils en train de rattraper leur retard? Un adulte sur 5 a désormais reçu au moins une dose de vaccin. Ça y est, Isabelle Horry, Bruxelles relève enfin la tête?
Oui, grâce au rythme de plus en plus rapide des vaccinations. Record battu cette semaine en Allemagne avec presque 740 000 injections en une journée. En France, c'est désormais entre 4 et 500 000 par jour. 100 millions d'Européens ont déjà reçu une piqûre. Le chancelier autrichien parle d'un effet ketchup. Au début, quand vous tapez sur la bouteille, rien ne vient. Et ensuite, d'un coup, tout atterrit dans votre assiette. Plus de 410 millions de vaccins sont attendus d'ici la fin du trimestre. Pfizer livrera 50 millions de doses de plus que prévu. Nous sommes prudemment optimistes, dit l'entourage d'Ursula von der Leyen, qui garde quand même un œil vigilant sur AstraZeneca et Johnson & Johnson. On a serré les dents quand on s'est fait traiter d'incapable, raconte une source bruxelloise. L'Europe, c'est long à se mettre en place, mais ensuite, c'est un paquebot. À Bruxelles, les calculettes sont sorties. L'objectif de l'immunité collective à l'été semble atteignable, avec 70% de la population adulte vaccinée, et même plus peut-être. Certains veulent croire que la tortue européenne va finir par dépasser le lièvre britannique.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
On l'apprend ce matin, une fusillade cette nuit à Indianapolis aux États-Unis. On parle de plusieurs victimes selon la police sur place. Une fusillade dans un bureau du groupe de transport de lettres et colis FedEx, près de l'aéroport international d'Indianapolis. On vous en reparlera dans le journal de 8h, bien sûr.
Oui, en parallèle, toujours aux États-Unis, une nouvelle vidéo qui tourne depuis cette nuit sur tous les écrans. Un policier poursuit un adolescent de 13 ans, un hispanique, en pleine nuit à Chicago. Il lui tire dessus au moment où il lève les mains en l'air. Le jeune homme est mort peu de temps après.
7h34 sur Europe 1. Un témoignage exclusif que vous allez entendre ce matin sur Europe 1, celui d'une mère qui réclamait justice depuis 4 ans et qui a été entendue.
Un soir d'août 2014, un homme fonce avec sa voiture sur la terrasse d'une pizzeria en Seine-et-Marne. Angela, une adolescente de 13 ans, meurt sur le coup. Il y a une dizaine de blessés. Hier, après 3 semaines de procès, le chauffard a été condamné à perpétuité, dont 22 ans de sûreté. Betty, la maman d'Angela, a accepté de réagir au micro de Justin Morin.
La seule vraie vengeance pour nous, c'est la justice et qu'elle montre l'exemple. Et on a été vengés, on a honoré la mémoire de notre fille et on remercie cette justice française de nous avoir donné ce qu'on attendait. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'il a fait. Chaque jour, c'était énormément difficile. On s'est imprégné de la douleur des uns et des autres. Le soir, on rentrait, on était complètement vidés, on était... ces jours de procès, on était vraiment dans un autre monde.
Il va vous aider, ce verdict ?
Bien entendu. On avait une épée Damoclès au-dessus de la tête durant toutes ces années, en plus de notre souffrance, en plus de toutes nos pathologies, en plus de... On n'a jamais quitté les centres hospitaliers, les rendez-vous médicaux. On ne pourra jamais tourner la page, mais on va peut-être aider nos enfants à avancer. Et c'est eux notre moteur.
Vous entendez le témoignage hein, de cette maman à l'issue du procès qui remercie la justice. Témoignage fort à retrouver sur Europe1.fr.
Les GAFA s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. D'abord Apple qui dote un nouveau fonds de 200 millions de dollars pour investir dans des projets forestiers. Et puis Google améliore son site Google Earth désormais grâce à des vidéos en mode timelapse. On peut visualiser en accéléré la transformation de certaines zones de la planète. Par exemple l'extension des villes sur la mer ou la fonte des glaciers au fil des années.
Il y a aussi de très très belles images hein, de la nature sur ce dispositif Google Earth dont on va reparler dans Notre Planète avec Virginie Salmen à 8h30 tout à l'heure. Et puis nous fêtons un anniversaire aujourd'hui, pas n'importe lequel, un centenaire.
Oui, celui de la vache qui rit. Et à cette occasion, Sébastien Krebs recevait ce matin Romuald Fasnet, le chef étoilé du château du Mont-Joli près de Dole dans le Jura. Il a été choisi par la marque pour imaginer une vingtaine de nouvelles recettes à base du fromage indémodable.
J'ai voulu associer un petit peu les saveurs de la vache qui rit qui existent dans le monde entier, qu'on ne connaît pas, nous, en France, puisque nous, on connaît que le basique de la vache qui rit, c'est-à-dire cette forme triangulaire, mais de pâte à tartiner nature. Et il existe beaucoup plus de saveurs dans le monde entier. Et donc, je me suis amusé à les associer avec qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire les légumineuses, le végétal, le bio. Et puis, j'ai aussi associé tout ça avec mes voyages. Voilà, toute mon expérience dans le monde entier. Et du coup, il en est sorti 18 recettes.
Justement, parmi ces recettes, un houmous à base de vache qui rit, un chili con vache qui rit. Et il y a aussi du sucré avec des macarons, du tiramisu et du riz au lait.
C'est pas un hasard, un dol dans le Jura. C'est Lons-le-Saunier, la capitale de la vache qui rit. Je suis beaucoup trop informé sur la vache qui rit, mes amis, y compris sur les préférences de Sophie Echen, qui est plutôt apéricube.
Au saumon, mon préféré.
Évidemment. Merci Sophie Echen, il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Bertrand Chameroy arrive, il va falloir qu'il soit aussi bon que ça. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur ce matin, c'est essentiel. Vous allez comprendre que l'Europe accélère dans la vaccination. C'est lui qui a la charge du déploiement vaccinal. Il sera au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Quelle image avez-vous des espions entre James Bond et le bureau des légendes? On va parler avec de vrais espions ce matin. Sergueï Jirnov, ex-KGB, François Varoux. Il publie KGB, DGSE, deux espions face à face. C'est le tête-à-tête Europe Matin à suivre. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu Béliard. Ce matin, je vous parle cire chaude et prohibition.
Prometteur, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de l'Atoucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ce matin je vous parle d'interdit. Ah, la prohibition. Dans les années 20, la prohibition, ça avait de la gueule. Fallait pousser la porte d'un frigidaire pour s'engouffrer dans un bar clandestin, un speakeasy. L'alcool frelaté y coulait à flot. Les resquilleurs en veste croisée tapaient le carton, assistaient à des concerts de jazz dans un nuage de fumée de cigarettes, pendant que Jenny Lagoulou se déhanchait sur scène dans sa robe noire à franges. Ah, le doux frisson de l'interdit. Bon, en 2021, la prohibition, c'est plus trop ça. Hein. Ça consiste à être dehors à 19h01 ou à manger une saucisse purée à 200 balles chez Pierre-Jean Charançon. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais pendant ce confinement, les restaurants n'ont pas le monopole de la clandestinité. C'était hier sur BFM.
Les instituts de beauté, il y a des instituts clandestins officiellement fermés, mais qui proposent le service derrière le rideau.
Les instituts de beauté clandestins, oui, c'est moi... Ça fait moins rêver, c'est moins un grand spectacle ce type de prohibition. Quoi. C'est Scorsese qui réalise Vénus Beauté Institut. Quoi. Non, mais vous imaginez Al Capone proposer une beauté des pieds? Non. Bon, en tout cas, il me tarde de découvrir le prochain reportage de 66 minutes enquête. Ça s'annonce haletant. Ne reculant devant rien, c'est en caméra discrète que nous nous sommes rendus dans ce haut lieu de la prohibition. Derrière le rideau de fer, la gérante propose tout un tas de services.
Bonjour, bonjour madame. Vous venez pourquoi? On peut vous faire un maillot brésilien, un soin peeling rénovateur de peau et un package teinture et permanente de cils. Et pour monsieur, épilation torse-dos à la cire chaude.
Dans son carnet de réservation, plusieurs noms de personnalités que la patronne nous révèle en exclusivité.
Bien sûr qu'on a des vedettes. On a déjà eu... Il y a aussi... qui est venu pour une beauté des mains et récemment on a reçu la visite de... Brice Hortefeux pour un maillot semi-intégral.
C'est vendredi. Alors conseil.
On a mal placé le
petit problème de calage. Alors conseil à la gérante de l'institut dont parlait BFM. Si vous vous faites gauler, surtout préparez un bon alibi. Évitez le. Eh bien, il s'agit du plus gros poisson d'avril de ces 10 dernières années parce que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Déjà, ça fonctionnait pas le 2 avril, donc le 16, c'est même pas la peine d'essayer. Quant aux clients, si d'aventure vous êtes un célèbre éditorialiste et qu'un site d'info révèle que vous étiez présent dans l'institut, jouez la surprise, l'étonnement, ça peut passer, un truc du style. Ah non, non, mais c'était un rendez-vous professionnel, comme j'en ai souvent avec des politiques. Je me suis rendu compte de rien. Alors oui, il y avait des limes à ongles, des pots de vernis et des bandes de cire, mais j'ai pas réalisé sur le coup. C'est quand madame est venue me proposer une épilation du CIF que j'ai compris que c'était un institut. J'ai le sentiment d'avoir été piégé. Voilà, tentez la technique Alain Duhamel sur un malentendu, ça peut marcher. Je vous laisse Mathieu, j'ai rendez-vous pour une French manucure.
Merci Bertrand Chameroy. La Toucham, c'est tous les matins à 7h40 et c'est sur Europe 1, bien sûr. Bertrand, on vous retrouve à 10h tout à l'heure.
Eh oui.
Avec Philippe Vandel dans Culture Média. Philippe Vandel et toute son équipe, bien sûr. 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
KGB d'AGSE, deux espions face à face. C'est un livre qui paraît cette semaine chez Mareuil Édition. L'occasion de recevoir Sergueï Jirnov et François Varoux. Ils racontent leur carrière, ce qui les différencie, les manipulations, les voyages, la guerre froide à l'époque. Écoutez bien, c'est passionnant. Sergueï Jirnov, ancien du KGB, et François Varoux, ex-DGSE, ce sont mes invités.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Sergueï Jirnov et François Varoux, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors d'abord, les raisons d'être de vos services étaient très différentes. Même en termes de dimension, DGSE et KGB n'ont rien à voir.
Tout à fait. Le KGB, c'est un grand monstre. C'est le ministère de sécurité d'État. C'était et contre-espionnage et aussi le service d'espionnage. Et donc, par rapport à la DGSE, qui est juste le service d'espionnage.
Alors la DGSE, ça n'est pas un monstre. C'est David contre Goliath.
Et le KGB aussi, c'était un ministère idéologique. Ça veut dire, nous, c'était le bras armé du Parti communiste. On nous disait, vous êtes de nos vaillants tchéquistes envoyés sur le front de la lutte contre les impérialistes.
Sergueï, il n'y a pas d'idéologie chez nous, on est clean, si je puis dire. Alors, on est là pour défendre notre pays. Hein.
Pour bien comprendre, peut-être qu'on peut dire un mot de la différence en termes d'effectifs.
KGB, 420 000 personnes, officiers traitants, dont 10 000 espions.
Et côté DGSE ?
Eh bien, nous, si je ne me trompe pas dans les chiffres, dans les 5 000 personnes, entre guillemets espions, alors j'utilise ce terme pour faire comprendre, ça tourne autour de la centaine, quoi. Hein.
François déteste le mot espion.
On n'utilise pas le mot espion ou espionnage. On est un service de renseignement.
Les espions, c'est les autres, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Les espions, c'est toujours en face.
Sergueï, à l'époque, c'était un de mes espions.
Mais en fait, traditionnellement, dans l'armée française, notamment pour ceux qui, comme vous, ont fait Saint-Cyr, François Varroux, espionner, c'est sale. En tout cas, ce n'est pas noble.
Oui, votre marque est judicieuse et elle est fine en même temps. Pas noble, pourquoi ? Parce que derrière la DGSE et derrière ce métier d'espion, il y a une connotation évidemment très fortement péjorative. Hein. C'est pas bien d'espionner. La curiosité chez nous, Français, c'est un défaut, voyez-vous.
Sergueï Girnov, vous racontez dans le livre que c'est votre amour de la langue française qui vous a permis de devenir espion du KGB.
Moi, j'ai adoré apprendre le français. Et en fait, on nous interdisait de pratiquer le français. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai pété les plombs. Le couvercle a sauté. Et donc, j'ai participé de mon propre chef à un concours linguistique de RFI. En fait, il fallait trouver un mot. Et j'ai trouvé la bonne réponse à une question. Et j'ai envoyé un télégramme à Paris. Depuis le rideau de fer, depuis l'Union soviétique, pendant la guerre froide. Ce télégramme, tout de suite, le KGB a été informé. Bien évidemment, ils ont fait une enquête. Ils ont fait des perquisitions chez moi sans que je le sache. J'ai été mis sur l'écoute. Mes parents étaient filés. Enfin, tout le monde a été filé. Donc Et là, il y a un colonel du KGB qui est venu. Et en fait, c'était le directeur du département de recrutement dans le service d'espionnage du KGB. D'abord, il a fait tout un cinéma en disant « voilà, on va t'emprisonner, on va t'envoyer au goulag ». Et après, il a fini par me dire « mais enfin, on sait qui tu es, parce que déjà, quand tu étais à l'école, tu participais à des concours linguistiques, et depuis 12 ans, tu es déjà dans nos bases de données ».
Oui, d'abord, une petite parenthèse, j'admire la qualité du français de Sergueï.
Je ne sais pas s'il faut l'admirer ou s'en inquiéter, en réalité. Moi, j'espérais, en vous rencontrant, parce que je vous ai lu, et j'espérais avoir une petite pointe d'accent, comme dans les films, Sergueï Girnov.
Moi, je peux parler le russe, comme l'écrivain Fedorovski, comprenez-vous.
Mais donc, finalement, c'est le KGB qui vous a choisi pour intégrer son école, où vous allez rencontrer quelqu'un que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui, à l'époque, se faisait appeler Vladimir Platov.
Vladimir Platov, c'est le pseudonyme qui était utilisé, ce qu'on dit, le nom d'école de Poutine. On prenait la première lettre de notre nom et après, on nous inventait un pseudonyme. Donc, Vladimir Poutine était Vladimir Platov et moi, j'étais Sergueï Jakov.
François Varroux, ex-DGSE, Sergueï Girnov, ex-KGB. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous faisiez le même métier ?
Oui. Ah oui.
Ouais, ouais.
Ah,
absolument.
Tout à fait.
Absolument.
Et d'ailleurs, j'ai été étonné lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, ouais, de la même façon, de la façon dont a été fait notre formation. C'était exactement, à peu près, la même chose. Nous avons la même mentalité, le même cursus.
Et votre métier, c'est de pousser des gens à trahir leur pays.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Soit réfléchi, soit d'une façon inconsciente. Parce que le problème, c'est aussi d'amener quelqu'un à trahir son pays sans qu'il s'en rende compte. C'est le nec plus ultra, ça, évidemment. Hein.
Et vous dites une chose absolument formidable, François Varroux. Les gens adorent parler d'eux.
Bien sûr. Bah oui. Mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons ?
Non, mais c'est facile, votre travail.
Attendez. Oui, mais on parle de nous. C'est ça. Ça nous plaît. Oui, là, c'est vous qui...
C'est encore mieux, en fait, si on provoque une situation dans laquelle c'est même pas nous qui demandons quelque chose à lui, mais c'est lui qui vient à nous.
Moi-même, j'ai été victime de cette affaire-là. Parce que je connaissais en Éthiopie un attaché de presse, je crois, de la RDA. Moi, j'ai dit, comme lui d'ailleurs, parce que j'adorais la musique baroque. Et bien voilà. Il m'a offert un disque. À l'époque, c'était des disques vinyles de Bach. J'étais ravi.
Mais c'était vous la cible alors. Enfin, officiellement, vous étiez diplomate à l'ambassade, je le précise. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on est approché comme ça par un service étranger ?
Eh bien, on rencontre ici à la centrale. Hein. Et à la centrale, ils se sont dit « Oh là là, le père Varou, il est en train de se faire manipuler. » Bon, j'ai tout arrêté, bien sûr. J'ai tout arrêté parce que...
Vous avez gardé le vinyle de Bach ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Non, quand même, bien. Que tout ne soit pas perdu.
Mais bien sûr. Vous savez...
Il faut en profiter un peu.
Nous sommes des personnages très curieux. En ce sens, chez nous, il n'y a pas de moralité. Hein.
On est des criminels. En fait, les contre-espions sont les flics, nous, on est des bandits. Hein. Voilà. Et le truc aussi, c'est nous sommes le seul service dans lequel, quand vous dites la vérité, on vous met en prison. Oui. Et quand vous montez, on vous donne une médaille.
Voilà. Oui, vous dites beaucoup dans le livre que la morale, ce n'est pas votre problème.
Correction. Dans l'action, quand on est face à l'ennemi, il n'y a aucune limite. En revanche, il y a autre chose. C'est que dans notre service, c'est comme dans la mafia. Vous avez votre parrain, il dit « À moi, tu dois raconter tout. Même tes fautes, enfin les pires des fautes, les fautes avouées, fautes pardonnées. Vous ne devez rien cacher au service. » Et dans le service, la morale est extrêmement importante. Si vous êtes malpropre dans votre vie, vous ne serez jamais recruté à la DGSE ni au KGB. Hein. Et donc, du coup, à l'intérieur du service, le moral coûte vachement.
Pour recruter une source, il y a 4 leviers. Argent, idéologie, chantage et égo.
Tout à fait.
Tout le monde,
c'est pareil. Chez nous, c'est la même chose.
La même chose. On a un service idéologique. Donc, pour nous, numéro un, c'est l'idéologie. Quand il y a quelqu'un qui vient vers nous en disant « je crois en communisme », pas besoin de le motiver. Vous n'avez pas besoin de le payer.
Chez nous, non. Il n'y a pas d'idéologie. On était beaucoup plus libres de ce point de vue-là. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on proposait de l'argent, les gens acceptaient d'ailleurs.
Hein. Numéro un, idéologie. Numéro deux, n'importe quelle motivation positive. S'il aime l'argent, bah, il voudra devenir millionnaire. Mais dès qu'on peut, il faut transformer cette motivation en motivation positive. Parce que le gars qui est pris sur quelque chose qui ne lui plaît pas, il fera tout pour s'en débarrasser de ce contact.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la Russie est aussi active aujourd'hui, soupçonnée d'être aussi active alors qu'elle n'a plus la même ambition idéologique ?
Parce qu'il y a les gens du KGB qui sont en place dans la gouvernance politique et étatique de Russie. Vous n'avez jamais le directeur de DGSE qui devient après président de la République. Ça veut dire que Poutine perd de la popularité et donc la seule façon de remonter dans la popularité quand il n'a rien proposé réellement, c'est de créer une sorte de nationalisme à l'intérieur et de dire la Russie, c'est une forteresse assiégée, tout le monde veut notre peau. Donc la seule façon de répondre, c'est la force de frappe par l'espionnage.
Pour terminer, je vous renvoie, messieurs, à ce que l'on connaît, nous, des espions. Votre boulot, c'était 007 ou le bureau des légendes ?
Alors, 007, certainement pas. Vous savez, je n'ai jamais descendu une pente à 50% avec une blonde à mes côtés et dans une de chevaux, arrivé en bas, costume tout frais, etc. Hein. Alors, oui, alors, le bureau des légendes, il y a de très bonnes choses dans le bureau des légendes. Il y a une ambiance que j'ai peu ou prou connue, c'est vrai. Mais il y a des choses, par contre, qui sont pas très réelles hein, sur le terrain.
Non, mais au cinéma. Mais vous rentrez cinéma, dans le bureau des légendes, on aurait dit Europe 1. Vous rentrez, il y a les ordinateurs, les écrans d'ordinateurs que vous voyez à travers les vitres partout.
C'est juste n'importe quoi.
Le bureau des légendes, je regarde deux fois. Je débranche mon cerveau, surtout professionnel, d'espion, et je regarde juste le truc cinématographique. Je reprends le truc, je rebranche mon cerveau, et alors là... Rien n'est réel.
Oui, et puis surtout, il y a une intrigue aussi. Il y a une intrigue entre un agent et son officier traitant. J'avoue que ça, c'est rédhibitoire. Chez nous, ça n'existe pas.
Hein, chez nous, c'est pareil. Hein.
Ah, voilà.
C'est pareil. Et en plus, regardez, le bureau des légendes, ils sont tous névrotiques. Il y en a un qui voit les petits bonhommes verts. Il y en a un qui entend des voix.
Oh, ouais,
ils couchent tous avec n'importe qui. Alors, avec nous, tout ce qui... c'est juste n'importe quoi.
On va finir sur ce point. KGB, DGSE, deux espions face à face. C'est chez Mareuil Éditions, Sergueï Girnov, François Varou. Merci messieurs.
Merci beaucoup.
Merci encore une fois. Alors c'est un entretien, je le précise, que nous avons enregistré pour profiter de l'échange, hein, de cette rencontre. En ligne déjà, on vous propose plus. On en apprend un petit peu sur leur vie privée, notamment sur Vladimir Poutine, à l'époque dans une version longue de l'interview, à télécharger en podcast ou à retrouver sur Europe 1.fr.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h53 dans quelques secondes, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bon réveil. Tous les matins, Nicolas Canteloup, vous le savez, conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, en charge de la task force vaccin surtout. Et c'est Emmanuel Macron qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à Monsieur Bétou, qui, je le vois, sait lire entre les lignes, sait lire entre mes actes. Bonjour Monsieur Cabrol et je salue Thierry Breton qui donc vient à Europe 1 ce matin. Au lieu de bosser, je m'adresse à lui parce qu'il doit être dans sa voiture officielle. J'ai annoncé la réouverture mi-mai, les réouvertures mi-mai. Si j'ai pas assez de vaccinés, je ne pourrais pas tenir mes promesses. Donc, je sais, Thierry, que tu es du genre bosseur. En plus, tu étais très bien placé pour comprendre que c'est pas le moment d'aller frimer face à Sonia Mabrouk. Hein, en disant quoi, gna 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 gna, la campagne ralentie par la méfiance autour d'AstraZeneca, gna 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 gna, mais nous travaillons quand même, nous avons des objectifs. Non. On n'a plus le temps, il faut du concret. Donc je te préviens Thierry, dès la fin de l'interview, tu prends ton Renault Trucks, tu pars chez Pfizer, tu ramènes des doses et tu vaccines tout le monde. Ok, je veux que ça avance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon projet.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours avant 8h. Thierry Breton à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk et la revue de presse à 8h45. Laurent Cabrol avec nous pour la météo. Oui.
Il fait actuellement entre moins 5 et plus 5 degrés, température sans surprise sur les mêmes qu'hier. Dans l'après-midi nous aurons également les mêmes températures qu'hier entre 10 et 15 degrés, 12 à Paris par exemple, 12 à Limoges et Lyon, 13 à Tours, 14 à Rennes, 15 à Nice et pour les plus fraîches, 9 à Nancy, à Clermont-Ferrand et Épinal. En ce moment, le ciel est dégagé, ne vous fiez pas à cette poussée de l'anticyclone qui va affaiblir immédiatement après et nous allons avoir dans le courant de l'après-midi sur la région Rhône-Alpes, sur la Franche-Comté, sur la région PACA, Provence, Alpes-Côte d'Azur et sur l'Auvergne, nous allons avoir des averses avec parfois quelques giboulées, parfois même neigeuses puisqu'il risque de neiger à partir de 400 mètres. J'ai tout dit ou presque, vous dire que simplement les nuages bas qui sont situés actuellement sur la Lorraine et l'Alsace vont s'échapper en deuxième partie de journée. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute le monde changer.